Et puis maintenant, retour au studio où Marie-Madeleine nous a rejoint. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour à tout le monde.
On est deux pour accueillir donc...
Jean-Marie Champagne, qui est comédien. Sébastien Lespinasse, professeur de français, mais aussi poète sonore.
Vous êtes deux... Bonjour.
Bonjour tous les deux. Vous êtes deux des membres des Parleurs. Lequel quintet, comme son nom l'indique, est composé de 5 personnes, à savoir bon, vous deux qui êtes ici présents, Laurence Rioux, qui est comédienne et metteur en scène, Didier Roux, comédien et metteur en scène, qui sont les deux cofondateurs de la compagnie Lohengrin Théâtre, qui sont aussi responsables du théâtre Le Hangar, si on peut dire. Jean-Marie Champagne y participe aussi. Et le cinquième compère est Yves Le Pestipon, qui est aussi professeur de français au lycée, entre autres, je sais, au lycée Fermat, qui est poète. Et si nous pouvons dire, vous avez tous en commun d'aimer faire vibrer les mots et les sons et faire danser le souffle. Et ensuite, vous êtes aussi tous les 5 à l'origine et aussi à la programmation du festival Les Bruits Sonnantes, qui a lieu tous les ans au mois de mars,
oui,
à peu près,
oui.
Au Théâtre du Hangar, dont vous assurez la programmation, et vous intervenez aussi, vous offrez aussi une prestation, tous les 5. Et donc maintenant, tous les 5, vous produisez cette semaine à la CAF Poésie, la première étant hier soir, c'est tous les soirs à 20h30, en sachant que le samedi 31, il y a une représentation supplémentaire avec après une surprise, si on peut dire, oui. La représentation supplémentaire est à 23h.
Oui, et je crois que c'est presque complet ou complet.
Ouais,
hein,
c'est
donc,
complet, c'est bien
c'est
pour
complet
vous.
Mais bon, si on ne sait jamais, vous pouvez toujours appeler, amis auditeurs, pour voir s'il y a des places qui se sont libérées d'ici là, pour avoir le droit à la séance surprise.
Et donc, vous proposez chacun un voyage, si on peut dire, à travers le temps, puisque vous avez présenté des fois, enfin, vous lisez des textes du Moyen-Âge jusqu'à des textes contemporains. Et ensuite, vous, en plus, peut-être, Sébastien, votre spécialité, puisque vous définissez comme poète sonore, poète planatique, vous jouez beaucoup avec les sons, avec les bruitages. Donc maintenant, je laisse Sandrine vous poser quelques questions.
Merci pour cette présentation, Marie-Madeleine. Alors, nous avons vu toutes les deux le spectacle, mais toi, tu l'as vu, donc...
Au bruit sonnant,
dans et moi hier soir. Bon alors déjà, ça vient d'où cette idée de jouer entre Noël et le 31, parce qu'il se passe plus rien dans la ville de Toulouse et vous êtes dit c'est maintenant qu'il faut proposer quelque chose d'un peu.
On s'est dit que c'était une bonne aubaine quoi. Donc, on n'a pas de concurrence trop, donc on profiter.
D'ailleurs hier c'était plein, donc ça marche.
Cela dit, on s'attendait pas du tout à avoir autant de public quoi. Franchement, moi je pensais, enfin. Mais c'est super, hein.
Bah oui, tant mieux pour vous, hein. Ouais. C'est chouette. Ouais.
Non, c'est une proposition que nous a fait le programmateur de la CAF Poésie,
oui. Yann Balade.
Ouais. Oui. Et on a accepté parce que c'est un tel plaisir de travailler ensemble. Puis c'est bien pour nous aussi de tester sur la durée ces propositions qu'on fait effectivement une fois par an pour les Bruits Sonnantes. Les parleurs sont intimement liés au Festival des Bruits Sonnantes. C'est une émanation, on va dire, du festival. Ça concrétise notre plaisir, notre long compagnonnage, puisque ça fait maintenant 20 ans à peu près qu'on se croise régulièrement, ouais. qu'on est d'accord, pas d'accord, qu'on souffle ensemble, qu'on prend plaisir à se poser 1000 questions sur comment faire les choses. Voilà, donc c'est un peu c'est une émanation du festival. Et là, le fait de jouer plusieurs fois de suite, c'est intéressant. Et puis, une chose qui nous plaît beaucoup dans cette proposition de la CAF Poésie, c'est que hier, dans cette salle qui était pleine, et c'est super pour une première, il y avait quand même pas mal de gens qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est bien. Ouais. C'est très bien pour nous de tester des propositions qui sont assez audacieuses, ouais, faut bien le dire. Ouais. Face à un public qui est curieux, qui vient, et en fait je crois que les choses se sont plutôt bien passées.
Mais oui, en fait la période c'est aussi un temps de vacances, on est un peu disponible pour aller peut-être tenter des expériences comme un quintet, donc les parleurs. Alors pour commencer tout de suite, on apprend au cours du spectacle que vous volez un peu votre titre, votre nom, les parleurs, à un titre d'une BD que vous avez eu la gentillesse d'apporter, une bande dessinée de François Hérol, une bande dessinée sans texte.
Oui, c'est une bande dessinée qui est, on va dire, très schématique, qui propose en fait des personnages un peu tous les mêmes, avec des bulles remplies de gribouillis qui sont que nous interprétons comme je crois on appelle ça du gromelot, c'est ça Jean-Marie?
Ouais, en théâtre on utilise ce terme là, oui, gromelot pour
ou du yaourt, je crois.
du yaourt mais d'y avoir fort.
Oui, oui, c'est proféré, quoi. Enfin, c'est comme... C'est verbalisé comme une parole réelle, quoi. Ouais.
Et en fait, ce qui se passe avec cette bande dessinée, ça, c'est intéressant parce que c'est un peu le même traitement, finalement, que la plupart des textes qu'on interprète. C'est-à-dire qu'on est, un petit peu scrupuleux, un peu maniaque sur le moindre détail. C'est-à-dire... La bulle est un peu plus grande, un peu plus petite, le personnage est un tout petit peu de biais, quelle est la main qui se lève. On essaye vraiment de respecter les choses exactement comme quand on interprète une partition de poésie sonore, on va être très attentif à la disposition typographique des lettres, on va être très attentif à des tas de petits signes qui sont pour nous des repères. Alors les parleurs, ce qui est super avec ça, parce que c'est presque le cœur de ce qui nous intéresse finalement, je crois, hein, avec ce groupe, c'est que ça parle sans qu'on sache exactement de quoi ça parle. On essaye d'être le plus précis sur comment ça parle, et après peut-être chacun se fait son histoire, son scénario. Il y a quelque chose des fois d'un peu primitif, d'un peu simple, un rapport très physique au langage, à la parole, à ce qui est en dessous des discours et qui est pourtant bien réel et bien là, puisque en fait tout le monde sait que les mots n'ont aucun sens et ça dépend comment on les dit, c'est la manière qu'on a de les dire.
C'est le son qui fait sens. Oui.
La façon qu'on a de dire bonjour peut dire énormément de choses, ça on le sait tous, hein, on le sait. Donc c'est un peu une exploration de ce qui se passe. Hein,
En deçà.
Alors bien sûr, il y a des textes, quand on lit du Henri Michaud par exemple, le texte est évidemment très important, ou du Gerasim Luka. Le texte n'est pas un prétexte, n'est pas anodin, mais le travail d'interprétation, le travail scénique, le fait de porter avec un corps sur scène et de partager ça à plusieurs voix, c'est aussi vraiment l'idée de tout ce qui peut se passer, de tout cet univers, de cette manière de mettre du corps, de la pulsion, du jeu, du silence aussi, du rythme, de la musique, dans le langage. Oui, dans le langage.
Ce n'est pas tout à fait le même travail que le travail du comédien. Vous qui êtes comédien, et vous, Sébastien Lespinasse, qui une fois à ce micro avait dit que vous aviez fait du théâtre et que ça ne vous avait pas spécialement parlé, et donc, vous, entre guillemets, et que vous aviez préféré présenter ce que vous faites actuellement.
Alors, je ne sais pas parce que...
Ah, vous l'aviez dit.
Oui, ça c'est possible que je l'ai dit, et je le crois assez. Je pense qu'il y a quand même une différence entre théâtre et poésie, sauf que toutes les différences qui existent, il y a quand même des tas de gens qui travaillent sur les frontières, et sur les lignes de crête, et là où on ramène quelque chose du dehors, qu'on reterritorialise, et en fait, moi, c'est très rapide et très personnel, ce qui me dérangeait avec une certaine pratique du théâtre, c'est d'une part la répétition qui me tue un peu, j'ai du mal à travailler avec la répétition, et puis un certain type de théâtre dont on va dire que ce qui conduit l'acte théâtral, c'est une certaine psychologie, une dramaturgie, alors que moi, mais là de ce point de vue là, je vois pas de grande différence avec mes camarades du hangar, avec une physique du poème, une physique de la diction. Il est clair que dans le travail que le hangar mène depuis un certain nombre d'années, il y a eu un moment, peut-être sous l'impulsion de Laurence, de Didier aussi, il y a eu tout d'un coup un enracinement fort de la parole dans des postures du corps, des façons, quelque chose qui se passe un peu plus dans la vérité de ce qui s'expulse du corps. Même s'il y a aussi une dramaturgie et toutes ces choses-là, bien sûr. Hein, c'est vrai que c'est moins ma question pour moi, par exemple.
Vous en pensez quoi, Jean-Marie, pour le coup, qui vous êtes comédien? Est-ce que vous travaillez différemment quand vous passez sur scène avec les parleurs?
À la fois oui et non. Enfin bon, pour moi, je convoque quand même des outils que j'utilise dans ma pratique de comédien, on va dire. C'est ma façon à moi de traiter ça, mais c'est vrai que ce genre de d'approche qu'on a avec les parleurs. Bon, quelque part, moi, j'ai eu un parcours un peu initiatique par rapport au théâtre, très lié à ce lieu qui est le théâtre du Hangar, qui avant s'appelait l'Espace Vide, qui était tenu par une autre équipe, voilà, Georges Bratoueff. Et ensuite, voilà, depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est Lohengrin qui a pris le relais. Mais quelque part, pour moi, le travail reste un peu dans le même type d'angle d'approche concernant le théâtre. Et c'est vrai que... Enfin, moi, je me retrouve aussi bien dans ma façon de travailler le texte, y compris le texte, comment il passe par le corps, dans un spectacle de théâtre, quand je dois travailler sur l'interprétation d'un personnage, on va dire, d'un rôle. Je m'y retrouve aussi bien avec des outils communs, avec cette pratique-là de proférer des paroles, on va dire, plus poétiques. Bon, et après, une petite remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'à la base, le théâtre, l'origine du théâtre occidental, en tout cas, c'est ce qu'on connaît du théâtre grec antique. Et à l'époque, c'était considéré comme... Enfin, le mot théâtre en soi-même, ça n'existait pas vraiment, quoi. C'était pas une forme qui existait. Ce qui existait, c'était une pratique poétique qui était essentiellement chorale, et donc qui était cultuelle aussi, dédiée à Dionysos, enfin, et politique, dans le sens où c'était la cité qui organisait ça, et tout était imbriqué, quoi, au niveau de la pratique, que ce soit, on pourrait dire que c'était une forme de culte politique qui servait à maintenir la cité, et en même temps à lui offrir une forme d'équilibre entre différentes tensions qu'il pouvait y avoir. Justement, le rôle de Dionysos était ce rôle de prendre en charge la dimension de l'étrangeté de l'autre. Et bon, tout ça, c'est passionnant comme origine de cette pratique qui, depuis, s'appelle le théâtre, mais qui a subi un long processus d'évolution pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui en Occident, qu'on nomme théâtre, et qui est quand même, d'une certaine façon, un peu, selon certains courants, certaines pratiques, peut-être un peu sclérosées, peut dire.
Moi, il me semble, Jean-Marie, par rapport à ce dont tu parles de la dimension chorale qu'il y a dans l'Antiquité, et moi, ce que je trouve d'intéressant dans les parleurs, c'est que, en fait, étant debout devant un pupitre, la question de la représentation du corps dans l'espace est beaucoup plus simple. Au fond, les mouvements sont, en ce qui me concerne, peut-être un peu moins pour toi, sont plutôt ce qui accompagne le texte, et plutôt, en fait, c'est la voix qui me pousse à agir, et je ne contrôle pas du tout mes gestes, pas trop. Et toi, tu vas chercher, bien sûr, dans ta formation, et moi, je pense à ce que les dadaïstes ont inventé au début du XXe siècle, c'est le poème simultan, c'est-à-dire... Tristan Zara Welsenbeck et Marcel Janco qui ont inventé un poème à trois voix qui s'appelait L'amiral cherche une maison à louer, qui est un texte qui non seulement mélange trois voix avec des bruits, avec des langues différentes, et c'est un joyeux bordel, hein, et ils ont libéré, en fait, c'est un acte décisif, majeur, parce que le poème à plusieurs voix veut dire aussi le poète n'est pas forcément cette voix lyrique qui dit la vérité, qui est l'un qui dit quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre du partage, quelque chose de l'ordre de l'impureté, de l'accueil de l'étranger, si tu veux, on peut dire ça, effectivement, c'est une chose importante, elle y est dans les textes, hein, quelque part, cet accueil de l'étrangeté dans la langue, puis même avec des choses plus cocasses, comme le mail que reçoit Yves, qui est une grosse bêtise, mais qui parle de ça d'une certaine manière.
Vous redonnez en tout cas une dimension de plaisir, déjà à commencer par que le spectateur sent votre plaisir à être sur scène, et c'est quelque chose qu'on peut toujours imaginer quand on va voir un spectacle. vivant. Mais là, on le voit. Il y a des moments, il y a des rires entre vous, il y a des sourires entre vous. Donc, déjà, redonner aussi cette dimension de plaisir assumé. Et vous jouez aussi, alors en prenant de la distance par rapport à. Alors, c'est savant, vous donnez des textes qui sont exigeants, on a entendu ce mot tout à l'heure. Mais en même temps, on ne se prend pas au sérieux et on est là aussi parce que c'est, enfin, on redonne à ces textes-là une dimension de plaisir. Ce n'est pas parce que c'est de la poésie sonore qu'on ne va rien comprendre et qu'on va s'ennuyer, parce que justement, on est là pour participer avec le corps. Donc voilà, vous redonnez en fait un corps à quelque chose qui a longtemps peut-être été considéré comme juste un concept ou...
En fait, à proprement parler, ce n'est pas vraiment de la poésie sonore, à proprement parler. Mais par contre, et c'est là où vous avez, d'une certaine manière, vous dites l'essentiel, c'est un traitement de poésie sonore qui est fait à des textes qui ne le sont pas forcément. Et cette dimension du corps, effectivement, ce partage dionysiaque du corps démembré, si tu veux... Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose du jeu, de l'étonnement, du... En fait, je crois que notre plaisir, quand on prend ces textes-là, d'abord on les choisit, chacun vient avec ses petits secrets.
Ses petits choix.
Voilà, ouais, moi j'ai dans ma caisse là des petits textes de Wittgenstein que j'ai très envie de faire partager pour une prochaine création. On vient tous avec nos désirs et puis on cherche des attaques. Comment on va attaquer le texte? C'est-à-dire par quel biais on va transformer, en fait, souvent, moi j'aurais tendance à le dire comme ça, comment on va casser la ligne. Casser la ligne, on va casser l'horizontalité pour commencer à disperser, à faire du fragment et à créer des espaces, du jeu. Par exemple, j'ai été très frappé, et c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Des fois, on ne sait pas, hein, il faut du temps. Il y a un texte de Tarkos qui est très étonnant, qu'on lit à la fin, où il déconstruit complètement le langage. Par exemple, je lis un passage que je ne lis pas normalement. D'accord. Dans le spectacle. C'est un passage que lit Laurence. C'est je ne, c'est je, c'est je ne, c'est je l'ai, c'est ce je ne veux pas, c'est ce je ne le veux pas, c'est ce je ne le veux, c'est ce je, c'est ce je, c'est ce je l'ai. Etc., etc. Et en fait, je me rends compte petit à petit que tout cet ensemble, c'est un texte relativement long qu'on lit, c'est une machine rythmique. C'est une machine rythmique, et peut-être ce que je lis comme ça ne fait pas sens du tout, mais en fait, dans le rythme, dans une certaine précision, j'ai l'impression que ça travaille à un endroit un peu de l'inconscient, de l'insouciant même, parce que c'est le son qui travaille. Et ça travaille en dessous. Et il y a vraiment des choses comme ça. Moi, quand je fais les parleurs, mais aussi quand je fais mes poèmes sonores, mais pas tous, j'ai vraiment cette sensation que le langage est une pâte et qu'il y a des pressions comme la pâte dentifrice qu'on pousse au bout. Il y a de la pression, il y a des silences qui sont des manières de remettre de la densité. Il y a du flux. J'ai vraiment une vision physique de ce que je fabrique, et du coup je suis absolument pas perdu, je sais où je vais et je sais où on va ensemble, ce qui est pas mal, hein. Se savoir où on va ensemble, savoir
ça,
où on va
chacun, oui,
où
c'est
on
une
va
chose.
Ensemble, c'est un petit peu le grand but actuel, je dirais. Reconstruire un nous qui va quelque part un petit peu.
Mais c'est marrant que tu parles de pâte, bon, tu parlais comme une pâte de dentifrice, mais par rapport à Tarkos,
ouais.
Lui-même essayait de définir dans certains textes ou interviews sa pratique avec un terme qu'il avait inventé, le terme de pâte-mo. Et il disait notamment que pour lui c'était quasiment impossible de décrire en quoi ça consistait, parce que pour parler de la patmo, il faut forcément utiliser la patmo. Bon, enfin, c'est un peu un jeu de langage et de concept comme ça, un peu absurde, mais
pas absurde, je crois pas.
Oui, non.
Pas absurde, justement. pas, non, mais vraiment, sérieusement.
Oui. Non, mais justement, moi je.
En cherchant, on peut. Oui.
Mais la sensation que j'ai, moi, ce qu'on fait avec les parleurs, c'est un peu qu'on traite de ça, quoi. Enfin, qu'on essaie un peu. Alors, on y arrive plus ou moins, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'on prend à corps ça, cette espèce de mystère et en même temps qui nous traverse tous, quoi. Enfin, on est complètement pétri de ça, quoi, de qu'est-ce que c'est la parole, qu'est-ce que c'est les mots, quoi, qui nous traversent. Enfin,
Ah, mais c'est sûr qu'on lit plus pareil juste après le spectacle. Et d'ailleurs, bon, vous devez plus lire pareil. Enfin, tout texte peut faire spectacle. Du coup, on apprend ça aussi. Et puis, alors, quelque chose de formidable, c'est par exemple la lecture du Cid avec simplement, à l'acte 1, on a juste le nom de qui prend la parole, et acte 1, scène 1.
Oui, le nom des personnages se succèdent au fil des scènes.
Voilà, Rodrigue, Chimène. Et en fait, ce qui est fabuleux là-dedans, c'est qu'on a tous des réminiscences du Cid. Oui. Donc on voit à peu près très bien où on est, oui, alors que rien n'est énoncé.
Parce que les trois petites didascalies suffisent retraduire le soufflet, la main à l'épée.
On a envie d'une chose, c'est de retourner chez soi et d'aller puiser dans sa bibliothèque. Et
de relire le Cid.
Le lire de cette façon-là, parce que d'abord c'est beaucoup plus rapide.
Il y a un effet comique, bien sûr, d'utiliser le Cid. Qui s'intercale juste après des textes très contemporains, qui sont très rapides, vifs, sonores, et puis tout d'un coup, on a l'impression qu'on va à la Comédie française, et qu'on va voir une pièce qui va durer 2h30 en costume. Évidemment, c'est pas ça qui se passe. Et en même temps, c'est vrai que nous, on aime beaucoup ça, ça a été trouvé comme ça dans le plaisir de s'amuser, hein. Vraiment, c'est pas un calcul... Mais ce que j'aime beaucoup, parce que c'est à la fois drôle et en même temps je trouve que c'est pas irrévérencieux par rapport à Jean Racine, qui est quand même un sacré artisan du langage, quoi. N'importe quoi. Et là je suis fatigué. Mais ce qui est fou, c'est que rien que les noms et les didascalies, ça fonctionne quand même, ça crée quelque chose, quoi.
Mais oui, ça crée comme un petit espace théâtral, je ne sais pas si on peut dire
en fait, ouais, tout à fait, vous arrivez à le faire surgir comme ça.
Puis il y a le rythme des pages avec les très longues tirades.
Ben oui.
Voilà, le monologue de Rodrigue est très, très, très passionnant, notamment.
Et vous interdisez aucun texte, en fait, si on comprend bien. Alors j'imagine que les réunions des parleurs, enfin pour préparer les parleurs, ça devait être... textes dans tous les sens.
Oui, bah c'est ça. Hein. On arrive avec plein de textes. On se castagne un peu. On fait des lectures d'abord. Ouais. Et puis il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah non, ça je le sens pas. Je le sens pas du tout. » Puis finalement, peut-être celui qui n'est pas senti, il va être... on va trouver un truc. Et l'autre qu'on croyait, on se disait « Ça c'est du gâteau. Oui, » Finalement, on n'arrive pas à trouver le rapport.
Ouais,
c'est un temps. C'est pas mal parce que c'est aussi un travail qui... la manière de faire est dit quelque chose des parleurs, c'est-à-dire c'est des temps assez rapides de travail collectif, et après c'est du travail solitaire aussi. On est tout seul avec son texte, on sait pourquoi on le choisit, on sait pourquoi on choisit celui que l'autre a proposé aussi, et on trouve des petites choses, on propose des petites choses. Voilà, après c'est de l'exploration, quoi, voilà. Et c'est un grand plaisir, parce que c'est un chantier, quoi.
Non, puis ce qui est super, c'est qu'entre nous, du coup, on se fait découvrir des choses aussi. Certains ont beaucoup plus à faire découvrir aux autres, c'est pas que à sens unique. Et du coup, ça fonctionne aussi. Enfin, ce qui est plaisant aussi, c'est d'imaginer, de se dire et de réaliser, effectivement, dans les retours qu'on a, qu'on peut faire découvrir comme ça certains types d'écriture, de textes à un public qui a priori n'a pas forcément
l'habitude de rencontrer ces textes. Voilà. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous donner un extrait de ce que vous présentez cette semaine, s'il vous plaît?
Ouais, qu'est-ce que tu en penses? On fait nous qui parlons ou tu préfères faire le tarcos?
Non, n'importe. Ouais, on peut faire...
nous qui parlons, c'est pas mal. Allez, alors peut-être tu veux que je présente un peu?
Vas-y.
Ouais. Bah, c'est un texte, voilà, modestement, c'est un texte que j'ai écrit qui s'appelle Actif-Passif. C'est un texte qu'au début j'avais écrit pour une seule voix, qui était juste une dizaine de petits slogans, vous allez entendre un peu. Je l'ai un peu élargi et Je l'ai créé pour deux voix avec Jean-Marie, je crois, dans un système de piston diastole-systole. Voilà, je crois que tout est clair. Allez, actif-passif. Nous qui parlons,
sommes parlés.
Nous qui achetons,
sommes achetés.
Nous qui aveuglons,
sommes aveuglés.
Nous qui bégayons,
sommes bégayés.
Nous qui classons,
sommes classés.
Nous qui condamnons,
sommes condamnés.
Une tête.
Une tête.
Nous qui consommons,
sommes consommés.
Nous qui parlons,
sommes parlés.
Nous qui masquons,
sommes masqués.
Nous qui crétinisons,
sommes crétinisés.
Nous qui critiquons,
sommes critiqués.
Nous qui défaisons,
sommes défaits.
Une tête n'a plus.
Une tête n'a plus.
Nous qui démodons,
sommes démodés.
Nous qui dépensons,
sommes dépensés.
Nous qui dépeuplons,
sommes dépeuplés.
Nous qui déraisonnons,
sommes déraisonnés.
Nous qui questionnons,
sommes questionnés.
Nous qui parlons,
sommes parlés.
Nous qui dessaisissons,
sommes dessaisis.
Une tête n'a plus son homme.
Une tête n'a plus son homme.
Nous qui détournons,
sommes détournés.
Nous qui englobons,
sommes englobés.
Nous qui nombrons,
sommes numérisés.
Nous qui enrageons,
sommes enragés.
Nous qui façonnons,
sommes façonnés.
Nous qui parlons,
sommes parlés.
Nous qui habitons,
sommes habités.
Nous qui imaginons,
sommes imaginés.
Une tête n'a plus tout son homme.
Une tête n'a plus tout son homme.
Nous qui vivons,
sommes idées.
Nous qui vivons,
sommes vécus.
Nous qui parlons,
sommes parlés.
Nous qui passons,
sommes passés.
Nous qui utilisons,
sommes utilisés.
Nous qui nommons,
sommes nommés.
Nous qui oublions,
sommes oubliés.
Nous qui parlons,
sommes parlés.
Nous qui pensons,
sommes pensés.
Une tête n'a plus tout son homme sur ses épaules.
Tout son homme sur ses épaules.
Une tête n'a plus tout son homme sur ses épaules.
Sur ses épaules.
Une tête n'a plus tout son homme sur ses épaules.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Un numéro de téléphone si vous voulez avoir la suite. C'est tous les soirs à la CAF Poésie jusqu'à samedi. Vous pouvez réserver au 05 61 23 62 00. 05 61 23 62 00. Il reste encore des places, mais quand même, dépêchez-vous. Parce que si c'est comme pour hier soir, la salle était bien remplie. Voilà.
Une question peut-être technique, mais qui va peut-être vous paraître, je sais pas, un peu bizarre. Là, le test, enfin, ce que vous venez de nous dire, vous êtes assis derrière un micro avec un casque à la CAF Poésie. Enfin, vous êtes debout. Qu'est-ce que cela change au niveau du son et de la façon dont vous faites passer justement les mots et toute cette musicalité?
Ah bah oui, c'est différent de dire un poème debout plutôt qu'assis. Mmh. Après, c'est une contrainte, je crois, des chanteurs de flamenco, qui est de remplir au maximum leur cage thoracique et de faire les chants les plus terribles en étant sur un tabouret. Mmh. Bon, nous, on n'en est pas là. juste peut-être un tout petit mot. Oui, c'est un système à deux voix. Comme ça, avec donc on a entendu un peu le système de piston. C'est un poème qui est très sauvage. Il y a d'autres poèmes qui sont beaucoup plus, d'autres textes qui sont beaucoup plus dans le sourire ou dans la légèreté. Voilà, c'est pas représentatif de tout le spectacle. Mais c'est sûr qu'être debout, ça change tout. Par exemple, moi, quand j'interprète la oursonate, mon point d'appui principal, c'est c'est les pieds au sol. Mmh. Il faut vraiment que les pieds soient bien au sol. Ouais. Et c'est là où je peux laisser s'échapper le poème avec le plus de précision ou de pertinence possible. Je sais pas, Jean-Marie, si tu veux réagir.
Je sais pas trop. Bah, c'est vrai que c'est différent, oui, de la posture du corps corporel est très importante.
Au niveau de la respiration, déjà.
Oui, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est pas idiot du tout comme question, en tout cas, parce que effectivement, la parole passe par le corps, quoi. Voilà. C'est un peu bête à dire, mais souvent on l'oublie. On a un peu tendance à l'oublier. Du coup, la position du corps a son importance et la parole peut-être passe et donnée un peu différemment, mais elle est quand même donnée d'une manière différente. Mais...
Si vous précisiez que vous êtes chanteur aussi, enfin, vous aimez bien chanter de temps
en
temps.
Ah, j'aime bien chanter, de là à dire que je chante.
Ça ne suffit pas.
C'est Bernard Haïti qui disait que qu'un grand pionnier de la poésie sonore, il disait que son but, au fond, c'est de mettre la poésie debout, hein, et de ne pas aller coucher sur la page, et lui veut la redresser, et qu'elle jaillisse et qu'elle sorte. Alors Bernard Haïti, c'est une de nos grandes influences, il n'y est pas dans le spectacle là, mais on...
Pour une autre fois.
Voilà, on a déjà interprété des pièces de lui.
Vas-y, un texte de lui que fait Laurence.
Non, mais bien sûr, je suis bête. Bien sûr, il y a le texte, le poème, la poème partition M.
Oui,
bien sûr.
Oui, parce que c'est vrai que d'autres fois, on en avait fait d'autres.
On en avait fait d'autres. Autres. Ouais.
Mais celui-là, oui, il y est.
Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y aura une suite, les parleurs 2, les parleurs 3. Vous avez des textes prêts, quoi.
Oui, il y a des textes en chantier pour les prochaines Bruits Sonnantes.
Oui.
On va voir. Il faut qu'on travaille un petit peu, là. Déjà, on termine
cette
semaine. Qu'on termine, qu'on avance un petit peu dans la précision du travail encore. Par rapport à hier, moi je pense qu'on peut gagner encore des choses.
Oui, c'est pas impossible.
Et est-ce que vous aurez envie, puisque bon, au départ c'était dans le cas des Bruits Sonnantes, c'était sur 20 minutes, me rappelait Jean-Marie hors micro tout à l'heure,
est-ce
que vous allez renouveler cet exercice de le faire dans un autre cadre et sur une heure? Est-ce que ça vous tente?
Nous, on y prend beaucoup de plaisir. On voit apparemment que ça touche
le concept fonctionne, si on peut dire.
Aussi, oui, voilà.
Oui, que c'est possible, parce que c'était pas sûr. Moi, quand je suis allé sur scène hier, je savais pas si un public pouvait supporter. Parce qu'il faut supporter, c'est un travail aussi, hein, un spectacle, d'une certaine manière. Ce n'est pas qu'un divertissement.
Bien sûr.
Et là, le fait qu'il y ait des natures de textes très différentes d'autres qui passent, il y en a qui passent vraiment par la musique, d'autres qui passent par la douceur, d'autres qui passent
par des choses plus violentes.
Ou des choses un peu, on va dire, graphiques ou visuelles, comme l'interprétation de la bande dessinée. Ça crée une multiplicité de rapports qui fait que d'une certaine manière on peut aussi bien entendre un texte très très violent, très dur, très très fort de Gerasim Louka et un texte très rigolo. Ça peut cohabiter et sans se détruire, parce que ça c'est évidemment un de nos grands
soucis,
bien sûr, dans la composition dans ce recueil, en fait, c'est une sorte de recueil, c'est un recueil de poèmes.
Mais c'est ça que j'aime bien aussi, de pouvoir arriver à se faire se côtoyer des modes de dire quand même très, très différents, quoi. Mais moi ça me renvoie aussi, il y a des exemples dans le théâtre antique, justement, notamment chez Sophocle, les personnages de messagers qui sont des personnages à la limite caricaturaux, très, très comiques à l'intérieur de tragédies. Chez Eschyle aussi, je crois que c'est dans l'Agamemnon, il y a un passage où le cœur des vieillards est scindé en deux et ils n'arrivent pas à prendre une décision, qui va oser aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du palais après les cris atroces, les hurlements atroces qui viennent d'entendre. Et le public sait que c'est Agamemnon et Cassandre qui viennent de se faire étriper par Clytemnestre. Enfin, il y a toujours ce choc, cette friction, quoi, entre le tragique et le comique, sans entrer dans des grandes catégories comme ça. Mais
à l'image de la vie aussi, il y a toujours des moments.
Mais exactement.
Mais c'est certainement aussi pour ça que le spectacle, enfin que la représentation est quand même ponctuée de rire. Mais justement, c'est pas le rire non-stop, c'est parce qu'on alterne et que du coup le rire, il est aussi libérateur de la tension qu'il y a eu juste avant, parce qu'on a écouté quelque chose dans le silence et qu'après on peut se permettre de rire puisque vous nous invitez à rire avec moult grimaces ou postures ou... Vous jouez beaucoup avec le public mais sans en faire trop non plus, ce qui fait que le rire, il est permis. Et on y va quand même de plus en plus au fur et à mesure que le spectacle se déroule. C'est-à-dire qu'au début, le rire est un petit peu retenu. Bon, à la fin, c'est quand même des éclats de rire puisqu'on comprend qu'on a l'espace pour pouvoir rire. Et voilà, c'est quand même déjà une prouesse, je trouve, d'arriver à faire rire aux éclats une salle quand on va sur une formule de cabaret comme ça, poétique. Et j'invite, j'invite les auditeurs à se rendre à la CAF Poésie.
À 20h30, toute la semaine.
Oui.
Jusqu'à samedi soir inclus, avec une représentation supplémentaire à 23h. Mais qui est complète.
Oui, qui est complète. Bon,
pas loin d'être complète, en tout cas.
À tenter, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous trouver dans cette semaine assez riche.
Merci pour les textes offerts.